Europe 1. Seconde partie, quatre mariages et un enterrement. À l'aube de l'adolescence, Svetlana supporte de plus en plus mal les mesures de sécurité qui lui sont imposées. L'homme qui est attaché à sa surveillance continue de la suivre de loin en loin dans la rue, épie tous ses allées et venues et fouille régulièrement toutes ses affaires. Elle est cependant largement protégée du vent de folie qui se met à souffler sur le pays à partir de 1937. Pendant cette période entrée dans l'histoire sous le vocable de purge stalinienne, des centaines de personnes suspectes sont arrêtées chaque jour, éliminées ou déportées. Svetlana ne sait rien de tout cela, mais la présence continuelle de Beria sur les talons de son père lui inspire une véritable nausée. « Beria, dira-t-elle, était le type parfait du courtisan de notre époque, l'incarnation de la perfidie orientale, de la flatterie, de l'hypocrisie. Nombreux sont les actes de ce monstre qui retombent à présent sur mon père. » Et d'évoquer au fil de ses souvenirs ce démon abject, sa répugnante nature, son visage hideux. En 1939, alors qu'Hitler jette ses armées sur l'Europe, Svetlana, qui a 15 ans, ressent les premiers émois de l'adolescence. Alors que les nouvelles venues du front sont terrifiantes, elle ne pense pas à la guerre et continue à vivre à peu près normalement. Elle sort, va au théâtre, à l'opéra. Son père remarque qu'elle ne s'habille plus comme une enfant. Il fulmine.
« Qu'est-ce que c'est que ces jupes qui couvrent à peine les cuisses? Habillez-moi cette fille de manière décente !»
Tandis qu'à Leningrad, le froid, la faim tuent autant que les bombes, Svetlana passe ses soirées à danser le foxtrot, danse proscrite pour le peuple, mais autorisée aux enfants des hauts dignitaires du parti. C'est lors d'une de ces soirées que Svetlana rencontre son premier amour, le cinéaste juif Alexis Kapler. C'est un bel homme, très élégant, profondément cultivé. Svetlana est sous le charme, mais il a 40 ans et elle 16. Une figure de père apparue dans sa vie au moment même où elle en veut mortellement au sien, depuis qu'elle a découvert en lisant un journal anglais qu'on lui a menti depuis toujours sur la mort de sa mère. Quelque chose s'est alors brisé en elle. Faut-il trouver dans cette profonde blessure les raisons de la romance qu'elle engage avec cet inconnu? 3 ans après leur rencontre, en 1942, ils ne se quittent plus et passent tout l'hiver ensemble. Svetlana est folle amoureuse. Pourtant, il a été établi que cette relation n'avait été que platonique. Tout au plus, les tourtereaux ont-ils échangé de brûlants baisers lorsqu'ils se retrouvaient seuls. Staline finit par apprendre l'existence de cette liaison. Il écume de rage que sa fille ait un amant quadragénaire, passe encore. Mais un juif, c'est inacceptable.
Je sais tout. Toutes tes communications téléphoniques. Les voici. Regarde un peu. Ton Kapler est un espion anglais. Il est arrêté.
Le 28 février 1943, jour de l'anniversaire de Svetlana, les amoureux se voient pour la dernière fois. 2 jours plus tard, 2 miliciens viennent chercher Alexis Kapler et le conduisent à la prison d'État, la Loubianka. De là, il part aussitôt en déportation. Il y restera 10 ans. Pour Svetlana, c'est une double mise à mort. Elle perd celui dont elle dira toujours qu'il était l'homme de sa vie et elle perd en Staline le père tendre, affectueux, attentif, qui avait enchanté son enfance. La rupture forcée avec Alexis Kapler a traumatisé Svetlana. Dès lors, elle enchaîne les liaisons. Dans chacune de ses rencontres avec un homme, elle va se révéler entière, passionnée, exclusive. Elle cherche à être libre là où tout lui est toujours imposé. Ainsi, elle voulait faire des études de lettres à l'université, mais son père le lui a interdit.
« Faire de la littérature, devenir comme tous ces parasites d'écrivains, pas question !» Tu feras de l'histoire. »
Plus que jamais, les relations entre Svetlana et son père sont tendues. Insensiblement, ils deviennent étrangers l'un à l'autre. En 1944, Svetlana a alors 18 ans, elle rencontre à la faculté d'histoire un ancien camarade de lycée, Grigori Morozov. Elle fait part à son père de l'intention de l'épouser. Elle essuie d'abord un refus, puis Staline, d'un revers de main, lui lance
« Le diable t'emporte, fais ce que tu veux. »
Le mariage sera de courte durée. Grigori est juif et puis, alors que tout le monde est au front, il est un planqué. Jamais Staline n'acceptera de le rencontrer. Mais un petit garçon naît de cette union. En 1947, le couple divorce. Svetlana se rend à l'évidence, elle n'est pas amoureuse. Que représentait ce Grégory pour elle, sinon une manière d'oublier Kapler et de faire enrager son père en épousant un juif? Le jour de la victoire contre Hitler, Svetlana se fend tout de même d'un petit coup de fil à son père. « Félicitations pour la victoire, papa !» Les relations entre le père et la fille s'arrêteront là, jusqu'en 1949. Svetlana, qui a à présent 23 ans, s'est décidée à épouser un ancien camarade de collège, Yuri Zhdanov, fils d'Andrei Zhdanov, ami intime et ministre de la culture et de la propagande de Staline.
« Épouse-le, il a de l'avenir, il me plaît et il t'aime. »
Une petite fille prématurée naît de ce mariage qui, comme le précédent, va tourner court. Geste révélateur, Svetlana écrit à son père pour lui faire part de son mal-être. Après tout, si elle a épousé Zhdanov, c'est bien pour lui faire plaisir, non ?
« Ton comportement est insupportable »,
lui répond Staline. Il confie à ses proches son mécontentement.
« Svetlana n'en fait qu'à sa tête. Morozov était sans doute un brave gars, mais pour Svetlana, ce n'était pas de l'amour. Elle voulait simplement s'amuser. Elle portait la culotte, et naturellement, cela a compromis leur mariage. Ensuite, elle s'est remariée, et maintenant ? Elle ne sait même pas coudre un bouton. Ses nounous ne lui ont rien appris. » Si sa mère l'avait élevée, elle aurait eu davantage de discipline.
De fait, Svetlana fait ce qu'elle veut, c'est certain. Le 27 août 1949, elle crée la surprise dans le monde entier en apparaissant à moitié nue dans le magazine Paris Match. L'heure est à la détente, on veut montrer une Union soviétique libre et sexy en exposant la beauté très russe, à la fois plantureuse et respirant la santé de la fille unique de Staline. Mais ces sourires sur papier glacé dissimulent une amère réalité. Dans les années qui précèdent la mort de Staline, père et fille ne se voient plus que très rarement. Svetlana retrouve son père une dernière fois avant sa mort, à l'occasion de son 73e anniversaire, le 21 décembre 1952. La soirée est placée sous le signe des traditions géorgiennes. Le vin coule à flot, Staline est ivre. Alors que Svetlana reste à l'écart, il vient la chercher et exige qu'elle danse pour les convives.
« Tu es la maîtresse de maison, non ? Alors danse !»«
J'en ai pas envie !»«
Danse, te dis-je !»
D'un geste brusque, Staline empoigne Svetlana par les cheveux et la traîne jusqu'au centre de la pièce. Leur ultime rencontre aura été placée sous le sceau de la violence. Sans doute Svetlana a-t-elle vu ce soir-là pour la première fois le vrai visage de son père ? Staline meurt un an plus tard, le 5 mars 1953. Dans les rues de Moscou déferle une marée humaine. La bousculade fait des centaines de victimes. À compter de ce jour, Svetlana va se conduire comme une barque sur un océan secoué par la tempête. Staline mort, elle a perdu son père, son rivage, sa terre. La révélation des crimes qu'il aurait commis la laisse sceptique. Pour elle, Beria est responsable de tout. Son père était plus influençable qu'on ne se l'imaginait. Non, il n'est en rien responsable des millions de victimes qu'on lui impute. Les passages à vide chez Svetlana se soldent souvent par un mariage. Et de trois, donc, avec cette fois un économiste géorgien. Parmi les apparatchiks du régime, on rit sous cape. Chacun sait que se marier avec la fille de Staline est un engagement au divorce, plus qu'un engagement au mariage. Secrètement, Svetlana nourrit l'espoir de changer de vie. Elle renonce au nom de Staline et prend celui de sa mère, Alilouyeva. Au début des années 60, son cœur déjà enclin à palpiter de manière anarchique, s'enflamme pour un vieux communiste indien, Brajesh Singh, qu'elle épouse en secret. Mariage désavoué par les autorités, dès qu'elles ont vent de cette décision prise comme d'habitude à la hâte. L'autorité du parti a remplacé celle du père. Kosygine, ministre des Affaires étrangères soviétiques, ne veut pas entendre parler de cette union. Mais il devrait savoir qu'avec Svetlana, aucun mariage ne dure bien longtemps. Celui-ci prendra fin prématurément, mais cette fois, non par condamnation au goulag, lassitude ou mésentente, mais parce que Brajesh Singh, gravement malade, meurt à Moscou. Svetlana est dévastée, bien sûr, mais elle entrevoit dans la mort de son troisième mari une porte de sortie. Au prétexte d'aller en Inde disperser ses cendres, elle obtient l'autorisation de s'y rendre. Sa décision est prise, elle va passer à l'ouest. Le 6 mars 1967, alors qu'elle se trouve à New Delhi, elle se présente à l'ambassade des États-Unis. « Je suis la fille de Staline », déclare-t-elle. La stupeur passée, on vérifie ses papiers, mais oui, c'est bien elle. Il faudra pourtant un certain temps avant qu'elle puisse gagner l'Amérique. La guerre froide est terminée, plus ou moins. Les relations diplomatiques entre États-Unis et URSS seraient presque au beau fixe. Ce n'est pas le moment de tout gâcher en donnant asile à la fille de Staline. Depuis l'Inde, Svetlana gagne donc Rome, puis la Suisse, seul pays disposé à la recevoir. Elle est chaperonnée par un agent de la CIA. Dès son arrivée, la question de ses conditions de vie à venir en Occident est réglée en beauté. Elle signe un contrat juteux avec une maison d'édition américaine qui lui verse 1,5 million de dollars pour la publication de son livre « 20 lettres à un ami ». À présent, elle va pouvoir vivre par elle-même et pour elle-même. Elle a 39 ans. Quand elle arrive finalement à New York en avril 1967, dans les interviews qu'elle donne en présence de dizaines de journalistes, elle renie son père, qu'elle qualifie de monstre, et elle compare le KGB à la Gestapo. À Princeton, elle fera son petit effet en brûlant son passeport soviétique devant la presse. « Peu importe où je vais, je serai partout la prisonnière politique du nom de mon père », déclare-t-elle. En partant aux États-Unis, elle a quand même laissé derrière elle son fils de 22 ans, Yossif Joseph, qui deviendra radiologue, et sa fille de 17 ans, Yekaterina, Catherine, qui elle deviendra une vulcanologue réputée et une communiste convaincue. De son quatrième et dernier mari, l'architecte William Peters, qu'elle épouse en 1970, Svetlana a un troisième enfant, Olga. Désormais, elle se fait appeler Lana Peters. Pas pour longtemps d'ailleurs, car avec elle, les mariages se suivent et se ressemblent, et celui-ci ne dure que 3 ans. Dans les 10 années suivantes, Svetlana obtient la nationalité américaine, s'installe en Angleterre avec sa fille Olga, elles passeront 10 ans à Cambridge. Elle téléphone à son fils Yossif aussi souvent qu'elle le peut, mais il lui manque. Et surtout, elle sent qu'il ne va pas bien, il est en train de sombrer dans l'alcoolisme. Alors pour lui, elle met fin à son exil de 17 ans et reprend pour elle et sa fille Olga, qui a alors 13 ans, la nationalité soviétique. Nouveau reniement, mais cette fois de sa vie américaine. Elle tente de s'installer à Tbilissi, en Géorgie, région dont son père était originaire. Mais ce retour aux sources est un échec. Elle a notamment beaucoup de mal à accepter qu'ici son père fasse toujours l'objet d'une admiration éperdue et aveugle. Finalement, elle obtient de Gorbatchev, alors secrétaire général du Parti communiste soviétique, de pouvoir quitter à nouveau l'URSS. Retour aux États-Unis en 86. À partir de là, elle mènera une vie paisible et rangée avec sa fille Olga jusqu'à sa mort le 22 novembre 2011 dans l'indifférence quasi générale. En Russie, c'est à peine si on a relayé l'information. Sachez tout de même que Svetlana avait pu revoir Alexis Kapler quand il était sorti du goulag. Ils avaient eu une liaison alors que lui était marié. Elle considérait qu'il avait été le seul homme de sa vie. Enfin, à titre d'épilogue des aventures de Svetlana, Olga, sa fille, la petite fille américaine de Staline, vit aux États-Unis sous le nom de Chris Evans. Elle est bouddhiste et vend des antiquités asiatiques. « C'est la fin de ce double épisode consacré à Svetlana Liliulgeva, fille de Staline. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est de Victor Nolo. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend comme d'habitude sur le site d'Europe 1. À très bientôt.